Arsena présente des apéros tête chercheuse. Lundi 4 mars 2024, Dorothée Burillon recevait Mireille Losco-Lena, professeure des universités en études théâtrales, pour discuter ensemble de ses travaux de recherche sur le comique théâtral.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Arsena pour cet apéro tête chercheuse, le cinquième du nom. Nous recevons ce soir Mireille Losco-Lena. Bonsoir Mireille.
Bonsoir.
Vous êtes professeure des universités en études théâtrales. Vous êtes responsable de la recherche-création à l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques théâtrales à Lyon depuis 2012. Et vous êtes membre du laboratoire Passage 2021 de l'université Lumière Lyon 2. Alors, avant d'aborder le comique, vous avez travaillé sur le théâtre au tournant 1900. Vous avez consacré plusieurs travaux aux écritures contemporaines et vous avez conduit deux cycles de recherche, l'un sur la question de la recherche-création. D'ailleurs, on a l'ouvrage « Faire théâtre sous le signe de la recherche » et l'autre sur l'hypnose au théâtre. Et vous avez d'ailleurs un projet d'ouvrage en cours. Depuis le début des années 2000, une partie de vos travaux porte sur le comique théâtral, sur lequel vous avez publié une vingtaine d'articles et un ouvrage, « Rien n'est plus drôle que le malheur, du comique et de la douleur dans les écritures dramatiques contemporaines » aux presses universitaires de Rennes en 2011. Et depuis 2022, vous revenez sur cette question du comique à l'ENSAT, justement, en compagnie des élèves et et du corps enseignant, dans le cadre du programme Recherche-Création au risque de faire rire. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de vous lancer sur ce thème ?
En 2022, récemment ?
Oui.
Au départ, d'abord merci beaucoup de cette invitation. Je suis très contente de venir partager comme ça ce travail de recherche et de recherche-création. Après le premier travail de recherche-création avec de l'expérimentation qui portait sur l'hypnose, donc hypnose et théâtre, j'avais envie de continuer un peu dans des questions plus graves, et j'étais partie sur l'histoire des fantômes. J'avais envie de faire un projet de recherche-création sur la question du fantôme au théâtre, de revenir sur cette question, parce que c'est une question transversale qui pose à la fois des questions d'incarnation pour le jeu, mais aussi d'écriture, de dramaturgie, de scénographie, de lumière, de son. Il faut que je pense à tous les métiers du théâtre quand je fais des programmes de recherche-création, puisque l'ENSAT est une école pluridisciplinaire. Et puis est arrivé le confinement. C'était il y a 4 ans, et c'était une période très sombre pour beaucoup de monde, notamment pour les futurs étudiants qui allaient arriver dans cette école, et une période avec beaucoup de deuil. Et là, je me suis dit, si au retour de confinement, je reviens avec des nouvelles promotions, je propose quelque chose sur le fantôme, je pense que je suis pas au bon endroit. Une école, ça doit être un endroit de la vitalité. Et du désir et de la joie, enfin de la joie de l'apprentissage. Et là, je me suis dit, c'est le moment de revenir au comique. Bon, c'était une question qui me taraudait depuis longtemps. Enfin, je travaille sur la question du comique depuis 20 ans, comme vous l'avez dit. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment. Et en effet, j'étais très étonnée, parce que c'est une question que je n'aurais jamais pu amener à l'ENSAT quand j'y étais nommée en 2011. J'aurais fait un bide. Franchement, personne se serait intéressé au comique, qui était mal vu. Et là, je faisais le pari que le comique, on en aurait besoin. Et je ne me suis pas trompée, parce que là, pour la dernière session de travail, il y avait 59 participants. Et les étudiants sont vraiment très participants. Et voilà ce qui m'a amenée à ce sujet.
Alors, commençons cette rencontre en présentant la façon dont vous avez pu définir le comique théâtral contemporain. Justement, cet ouvrage reprend la célèbre réplique de fin de partie de Beckett, de Nell, qui dit « rien n'est plus drôle que le malheur », qui est bien l'expression d'un paradoxe caractéristique de notre sensibilité moderne, où dans la ligne droite de la vision romantique d'un Baudelaire aussi, le comique touche le tragique. Quelles sont les mutations du rire dans les poétiques dramatiques contemporaines ?
Alors, j'ai envie de partir d'un constat qui était un constat... Alors, bien sûr, il y a une sensibilité moderne du rire et de la douleur. Ça, c'est arrivé, effectivement, depuis le 19e siècle. Bon, c'est un phénomène historique important qui avait été déjà analysé. Mais je crois que dans la question du théâtre, plus spécifiquement dans la question du théâtre public... Quand j'ai commencé à travailler sur la question du comique, c'était aussi parce que le comique était devenu très tabou. Vraiment, à la fin du 19e siècle, du 20e siècle, c'est pas si vieux, à la fin du 20e siècle, on ne riait pas beaucoup dans les salles du théâtre public, on n'osait plus tellement rire, même quand c'était drôle. Et pour moi, la question du comique a toujours été... très importante, voilà, mais après, ça c'est lié à des tempéraments, des goûts, des choses qui m'avaient beaucoup marquée quand j'étais jeune. Et c'est à ce tabou que j'ai voulu m'affronter, en observant qu'il y avait du comique dans les textes, même si on ne les montait pas forcément en mettant en valeur leur comique, et notamment, le grand exemple, c'est Beckett. Aujourd'hui, on remonte à nouveau Beckett drôle, mais enfin, on a eu un nombre de mises en scène de Beckett absolument sinistres et désespérantes. Voilà. Et j'avais envie de travailler sur ce tabou, et la façon dont, quand même, dans les écritures, il y avait du potentiel comique, mais que ce potentiel comique, il était toujours légitimé par le fait qu'il montrait combien les racines du comique, c'est la douleur. Et je dis qu'il montrait, parce que, en fait, je suis intimement persuadée que le comique a toujours à voir avec la douleur. Quand on va bien, on n'a pas besoin de comique. Quand tout va bien, c'est Baudelaire d'ailleurs qui dit au paradis, le comique n'existait pas, hein, ça c'est dans la théologie chrétienne qu'on affirme ça, au paradis, Adam et Ève, ils sourient. On est heureux, donc c'est le sourire. Et le sourire, c'est un visage serein, lisse, lumineux. Le rire, c'est une convulsion, dit Baudelaire, et c'est la convulsion qui dit que quelque chose ne va pas, mais qu'il y a quand même de la vie qui vient passer à travers. Donc la douleur, elle est toujours là dans le comique, sauf que dans le comique traditionnel, on estompe la douleur, on l'escamote, on ne voit que le drôle, et on, voilà. Dans le comique moderne, et particulièrement dans ce comique de l'écriture dramatique contemporaine, on fait apparaître les racines de la douleur, qui sont toujours là, mais elles sont plus visibles, au risque d'ailleurs de faire de troubler le rire. Hein. Est-ce qu'on peut rire encore quand il y a de la douleur ? Moi, je pense que oui, et qu'il faut même, c'est très important. Mais voilà, il y avait ce tabou dont j'ai parlé, qui me semble avoir qui s'est beaucoup affaibli, ce tabou. Aujourd'hui, on rit beaucoup plus dans les salles, et il y a moins de gêne avec une salle qui rit. Mais voilà, c'est vraiment sur ce tabou que j'ai voulu travailler. Et donc, en montrant comment, effectivement, il y a des racines tragiques ou comiques très, très sensibles dans un vaste panorama d'écriture dramatique. Là, j'étais à partir des années 80 jusqu'aux années 2000, à peu près.
Et c'était sur quel texte vous avez travaillé ? Sur quels auteurs ?
Alors, très large, très, très large. Justement, j'ai essayé d'ouvrir le champ. Je suis restée globalement sur le champ européen, même si j'ai fait une petite ouverture sur le théâtre algérien contemporain, parce que j'étais très très frappée de la façon dont les Algériens avaient été capables d'écrire des comédies très drôles pendant la décennie noire, pendant les années 90. Et là, je m'étais dit, waouh, il y a quand même là, quand vraiment ça va mal, on fait du comique. Hein. Nous, ça allait encore assez bien finalement dans les années 80-90. En Europe. Mais sinon, je me suis intéressée, oui, alors quels auteurs ? depuis Noël Renaud dans le domaine français ou Eugène Durif, jusque bien sûr Novarina, qui est une grande, grande figure. J'ai ouvert le corpus à des gens qui, pour moi, étaient très importants, comme Georges Tabori, qui n'est pas très, très connu en France, mais qui me semble vraiment avoir une œuvre très importante. J'ai travaillé sur le théâtre d'ex-Yougoslavie, là aussi, parce qu'il y avait un comique mordant, douloureux, lié à la guerre. Le champ est très, très, très large, quoi. Enfin, il y a, je crois, une trentaine, une quarantaine de textes que je brasse dans ce travail.
Ouais. Tout à fait. Et dans la forme que ce comique peut prendre au théâtre, vous montrez aussi qu'on est passé de la comédie très codifiée à finalement quelque chose qui s'approche davantage de la farce, du burlesque.
Oui, alors le retour de la farce, ça c'était vraiment un phénomène très intéressant parce que j'avais observé que le mot farce a connu un regain d'intérêt comme ça chez les auteurs, autrices, dans les sous-titres. Très souvent, des sous-titres farce tragique, farce noire, farce violente, enfin. Et je me suis posé la question, effectivement, pourquoi la farce plus que la comédie, hein, pourquoi plus la farce? Et je crois, enfin c'est l'hypothèse que je défends dans le livre, c'est que la farce, c'est le genre de la brutalité. Traditionnellement, la farce, qui est un genre médiéval, c'était le genre des coups, le genre de la violence. Alors, c'est une violence dont on rit, hein, dont on prend le parti de rire, mais c'est la violence, les rapports sont très brutaux, hein, entre les gens, et c'est cette brutalité qui, à mon avis, a fait retour beaucoup dans les écritures contemporaines. Dans cette envie de parler de la violence des individus, puisque la comédie ou la farce, enfin le genre comique, n'est pas du tout un genre pacifié, hein. Au contraire, c'est vraiment le genre des très grandes violences, mais des violences qu'on décide, comment dire, de prendre du côté de la vitalité et pas du mortifère, quoi. Voilà. Et je pense que ce retour en force de la farce tient beaucoup à cette envie d'examiner la violence du côté de la vitalité.
Alors, on va rester du côté de la vitalité en étant plongé dans votre recherche-création au sein de l'ENSAT, au sein d'une école, avec tous ces jeunes gens qui vont faire les générations prochaines d'artistes sur les plateaux. Puisque vous poursuivez cette recherche sur le comique par une recherche-création, vous avez signé un ouvrage qui s'appelle « Faire théâtre sous le signe de la recherche », justement. Et j'aurais aimé que vous puissiez partager avec nous ce que c'est qu'une recherche-création.
Alors, c'est un terme qui est aujourd'hui très en vogue dans le monde artistique comme dans le monde universitaire. C'est un terme qui nous vient du Québec. Ça fait depuis les années 70-80 que les Québécois avaient initié des formes de recherche dans le monde universitaire, mais sachant qu'au Québec, il n'y a pas de séparation entre les écoles de pratique et les universités. Donc, dans ce champ-là, ils avaient initié ça. Et c'est vraiment depuis, on va dire, 10-15 ans qu'en France, on est très agité par cette question-là. Alors, la recherche-création, c'est une façon de faire de la recherche qui n'est pas encore stabilisée, j'ai envie de dire, ni méthodologiquement, ni épistémologiquement. Il y a beaucoup de débats qui continuent à faire rage, enfin moins rage aujourd'hui. Ça faisait rage il y a 10 ans, tout le monde s'est trippé à ce sujet. Aujourd'hui, c'est un peu plus pacifié, mais pour autant, j'estime que ça n'est pas stabilisé. Il y a plein de définitions différentes. Il y en a avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Alors moi, je vais vous dire ce que moi, j'entends par recherche-création, puisque j'ai effectivement, en arrivant à l'ENSAT, quand j'ai été nommée il y a donc 12-13 ans, je me suis confrontée à ça. Et moi qui avais une pratique d'universitaire, c'est-à-dire avec une certaine épistémologie objective, on va dire, en tout cas un recul entre moi, sujet chercheuse, et mes objets de recherche, j'étais très perturbée je m'interrogeais beaucoup sur ce que ça pouvait être qu'une recherche-création. Et en fait, la recherche-création, on pourrait dire très simplement que ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas l'alliage de la théorie et de la pratique, comme on le dit souvent, parce que ça ne va pas ensemble, la théorie et la pratique. Je le pense vraiment, on pourrait y revenir si jamais. Mais pour moi, c'est C'est une recherche qui, à un moment, décide que c'est pertinent de passer par l'expérimentation. Chose, en fait, assez évidente quand on y réfléchit. Hein. D'ailleurs, les scientifiques le font eux-mêmes, hein, ils expérimentent en laboratoire. C'est-à-dire ce passage par l'expérience, l'expérimentation, comme une façon de traverser un objet de recherche ou un sujet de recherche et d'en gagner des éclairages qu'on n'aurait pas pu avoir si on était resté dans une épistémologie de la coupure entre le sujet et l'objet. Voilà. Et que faire une recherche sur le comique en examinant seulement des objets comiques et en s'interdisant de rire, presque. Parce que, dans le fond, si on va jusqu'au bout d'une épistémologie de la coupure, il faudrait presque avoir un regard froid sur ces objets. Ce n'est pas possible. Le comique, il faut plonger dedans. Faut plonger dedans, et comme rieur, rieuse, et aussi sur un plateau, comment ça se fabrique. Et c'est quoi cette expérience? Parce que moi, je n'ai jamais vu les acteurs et les actrices avoir autant peur qu'avant de monter sur scène pour faire rire. Parce que là, si ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas. Donc, voilà, ce passage par l'expérience pour éclairer cette question du comique et du rire, pour moi, c'est ça, la recherche-création. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y ait des cours théoriques et puis une partie de jeu, c'est pas ça. C'est passer par l'expérience et puis en faire apparaître des choses. Et j'ai presque envie de dire que dans la recherche-création, le moment théorique, j'aime pas ce mot parce que théorique, ça veut dire vraiment être très loin de son objet. Je préfère dire le moment réflexif. Le moment réflexif, il est continu et il vient beaucoup après. Donc, c'est pas du tout, d'abord, on se nourrit théoriquement et ensuite on fait du théâtre. C'est pas du tout ça, la recherche-création. C'est, on réfléchit, bien sûr, on se donne des axes, on traverse par l'expérimentation et on en tire des choses, aussi bien pour la pratique que pour la pensée. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu clairement à ce que c'est que la recherche-création. En tout cas, pour moi, voilà.
Oui, il me semble. Merci. Alors justement, il faut. On sait que le jugement de goût sur le comique est extrêmement variable et qui dépend aussi bien de l'histoire, de la zone géographique, socialement de où on se situe, voilà, du genre et de l'intimité. Et il faut donc pour cette recherche-création poser un cadre. Et parce que vous dites dans les phrases qui présentent cette recherche-là, vous dites au risque de faire rire, quels pourraient être les critères d'un bon comique théâtral, un théâtre comique d'art. Est-ce que vous pouvez nous présenter le cadrage que vous avez posé pour cette recherche et ces années de recherche et d'expérimentation?
Oui, je pense que j'ai un certain goût pour les objets de recherche impossibles, les questions impossibles, irrésolubles, voilà. Parce que ça, c'est une question irrésoluble, mais en même temps nécessaire. En fait, en travaillant sur le comique, je m'étais rendu compte que toutes celles et ceux qui ont travaillé, fait des livres, fait des recherches sur le comique, ont un amour du comique et essaient toujours de défendre le comique comme une chose digne et nécessaire. Et j'ai fait ça avec mon livre aussi, j'ai essayé de défendre l'art comique. Et puis, en me rendant compte quand même tout le temps, constamment, à chaque fois que je parlais de mes travaux, qu'il y avait aussi, que j'aime pas tout le comique. Il y a aussi des choses que je trouve très mauvaises, très vulgaires, très ratées, tout me fait pas rire, etc. Et qu'à chaque fois que j'arrivais dans un colloque, ou même dans une soirée entre amis, on me demandait sur quoi je travaillais sur le comique, on me disait « Ah, c'est formidable !» Et ça y est, on me sortait des choses que je pouvais absolument détester. Et tout en étant embarrassée, parce que je savais pas forcément bien l'expliquer, pourquoi pas, bon. Quelles étaient les raisons? Et je m'étais rendu compte que, dans le fond, il y avait une question essentielle, notamment pour ce théâtre public qui avait tellement de mal avec le comique, qui avait décidé que, dans le fond, le comique, c'était l'affaire du théâtre privé, quoi. C'est une case terrible de penser ça. On a abandonné un pan de l'art, quoi, au théâtre privé pendant des années, bon. Alors, que la question, c'était, c'est quoi du bon comique? Et j'avais été invitée dans un séminaire à l'Université de Bordeaux, auprès d'une collègue qui travaillait sur le comique, Marie Duret-Pujol. Et on avait discuté de ça avec les étudiants, mais c'était très expérimental, c'était 2 heures, et puis c'est quoi un bon comique, un mauvais comique, et on pataugeait. Mais en même temps, quand on fait la recherche, c'est qu'on aime patauger. Hein. Enfin, faut... C'est vrai, quand on a le goût de la recherche, c'est qu'on a le goût de ce qu'on ne sait pas. C'est ça, être chercheur, pour moi. Hein. C'est aimer pas savoir. Dès qu'on a trouvé les solutions, on trouve un autre problème. Hein. En fait, on passe notre vie à chercher des problèmes. Il y a un moment, quand je me suis dit, on va revenir au comique, je me suis dit, allez, un peu par défi, quoi. Allez, posons cette question impossible, enfin, irrésoluble. Enfin, j'en suis pas sûre aujourd'hui, parce que je me dis qu'on a quand même bien avancé. Et je me suis dit, essayons quand même de nous affronter à ça, parce que cette question, même si les réponses sont pas simples, en fait, on se la pose tout le temps sans y arriver, enfin, sans oser se la poser. Et j'étais frappée par l'embarras, par exemple, des journalistes de presse. Il y a des clichés quoi, qui reviennent tout le temps. Quand un spectacle nous fait beaucoup rire, on va dire « Ah oui, c'était vertigineux, c'était la folie ». Voilà, c'est des choses sur lesquelles je suis revenue d'ailleurs. Mais il y a des clichés selon les époques. On est très embarrassés à en parler. Et puis aussi, j'avais écouté des podcasts d'émissions tout à fait prestigieuses de France Culture, avec des retours sur des spectacles de Blanche Gardin ou sa série qui était passée sur Canal il y a 2 ans, ou des spectacles de Pierre Guillouet, etc. Et je notais, non sans une petite jubilation, je dois l'avouer, mais parce que je partageais cet embarras moi-même, je notais l'embarras quand même des journalistes. Parfois, ils butaient, ils trouvaient pas leur mot, à pas arriver sur France Culture, pas arriver à finir des phrases, quoi. C'est quand même ultra rare. Et ben sur le comique, j'ai fait comme ça une petite, et là je me suis dit, enfin un petit florilège. Et là je me suis dit bon, alors on va essayer quoi. Non pas pour faire mieux que les autres, c'est pas ça, mais il faut essayer parce que c'est pas possible qu'on en reste là. Et parce que c'est pas possible que pour justifier d'un grand comique, on aille chercher le sérieux, parce que c'est toujours ce qu'on fait dans le fond. C'est on a trouvé ça formidablement drôle, on a eu un plaisir d'art. Hein mais comme on ne sait pas en parler, on va dire « Ah oui, non, mais en fait, dans le fond, c'est parce que ça dénonce des choses très graves, etc. Bon. » Mais oui, parce qu'on sait faire que ça. Mais c'est culturel, hein. C'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Moi, la première, on dirait rien de plus drôle que le malheur, dans le fond, d'une certaine façon, je suis passée par là aussi, d'aller chercher la douleur dans le comique. Et là, je me suis dit, ben, allez, on essaye. Alors, on va essayer de trouver des critères esthétiques, comme ça. Et l'idée, alors là, je dois beaucoup au directeur de l'ENSAT, qui n'est plus directeur depuis quelques jours, Laurent Gutmann, hein, qui est parti, et qui m'a beaucoup soutenue dans cette démarche, parce qu'on s'est dit, pour les artistes, c'est important d'avoir des critères, ou de voir un peu plus clair. Hein. On est très modeste, je ne dis pas que c'est triomphant, mais essayer de se donner quand même des outils, c'est important pour les artistes, c'est important pour les spectateurs et spectatrices, les journalistes, c'est important pour les programmateurs et les programmatrices, parce que combien d'artistes comiques avec qui j'ai parlé depuis 20 ans m'ont dit « Ben oui, ils viennent, les programmateurs, programmatrices, ils trouvent ça super, mais après, en fait, il leur manque le discours, quoi, le discours de légitimation, en fait, la question de la légitimation du théâtre comique, elle est en souffrance, voilà. Et ben, il faut fabriquer ces outils. Donc, c'est très ambitieux. Et en même temps, on y va avec joie et naïveté et puis humilité, parce que c'est ambitieux, mais on fera ce qu'on pourra avec ça. Mais je crois qu'on avance quand même.
Alors justement, ces critères esthétiques que vous avez souhaité mettre à l'épreuve, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Le premier critère, c'était celui du déplacement, de la transgression.
Oui, en fait, donc l'idée que j'ai eue, c'était de découper dans le comique des critères possibles, qui soient des critères esthétiques et qui ne relèvent pas ni de genre. On n'allait pas travailler sur la comédie, la farce, le vaudeville, ni de catégorie du comique. Ça a été beaucoup fait déjà. Le ridicule, le grotesque, l'humour. Enfin, vous voyez, des choses où il y a déjà beaucoup d'ouvrages. Et en même temps, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, pour moi, dans tous les objets de recherche que j'ai eus dans ma vie, c'est le plus difficile, le comique, parce que personne n'est d'accord sur les définitions. Ça, c'est bien le seul endroit, quand même, de la recherche où personne n'est d'accord sur ce que c'est que l'humour, le grotesque, le burlesque. Alors, d'un livre à l'autre, les définitions changent. On est dans la grande difficulté. Donc, j'ai laissé ça de côté et je me suis dit, alors, ce serait quoi des critères esthétiques ? c'est-à-dire des choses qui sont à la fois des moteurs pour la création, hein, des guides. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche dans le comic, dans le fond, qu'est-ce qui nous tient là-dedans. Je ne parle pas des contenus d'une pièce, hein, je parle vraiment de ce qui, dans le comic, fait force, fait puissance, voilà. Et puis ce qu'on va recevoir en tant que spectateur et spectatrice dans nos psychismes, dans nos corps, parce que c'est aussi c'est très physique, hein, ce qu'on vit quand on rit, hein, et ce qu'on ressent, et selon les types de comiques, on va rire différemment dans nos corps. Et donc j'ai cherché à établir ces critères. Au début, j'en ai établi trois, puis j'en ai trouvé un récemment nouveau, parce qu'au début, je me suis dit, j'en vois trois, et toujours dans l'humilité, je me suis dit, peut-être il y en a d'autres qui apparaîtront. Donc il y en a un quatrième, donc ça me permet de continuer l'an prochain, donc ça, je suis très contente. Alors, le premier critère, oui, on est parti sur une chose très classique, hein, bien sûr, mais c'est comment aller trop loin, mais de le faire accepter au public. C'est-à-dire ce passage de la limite transgressive. Hein. Je cherche la phrase qui résume, c'est pas comment aller trop loin, c'est...
Jusqu'où
aller trop loin. Mais oui, je sais pas, mais ça m'était sorti de la tête. Jusqu'où aller trop loin et comment... alors on a travaillé à ce moment-là, notamment, on a regardé le travail du stand-up, enfin, il y a là aussi du très bon et du très mauvais hein, dans le stand-up, là aussi, mais cet art chez les grands, d'aller trop loin, mais d'arriver à le faire accepter au corps et au psychisme, enfin, au spectateur. Ça, c'est pour moi très virtuose. Comment on se dit dans la salle, non, là, c'est pas possible, mais on rit quand même, on acquiesce. Comment faire acquiescer à ces dépassements-là, et de façon collective, voilà, pour moi, il y a une puissance du comique à aller transgresser, quels que soient les sujets, hein, d'ailleurs. Donc, on a travaillé sur ce premier critère et de façon expérimentale pour faire éprouver, et notamment en public, puisque, en fait, avec les étudiants et les collègues, et voilà, les artistes invités, on a une journée publique où on vient expérimenter aussi avec ce partenaire essentiel dans le comique, qui est le public. Et donc, il y a des choses qui marchent moins, mais c'est utile parce qu'on voilà, on va sentir les moments de jubilation. Et alors, ces moments de jubilation intense quand on sent qu'on transgresse avec un public qui consent, mais qui frémit, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il consente trop non plus. Hein. Voilà, comment on travaille sur cette limite? Ça, c'était pour moi un critère possible du comique.
Et le deuxième critère, c'est le vertige de l'humour.
Ouais.
Faire naufrage,
ouais.
Faire vaciller, faire voltige.
Le monde absurde, le monde idiot. Hein. Moi, je suis une grande fan de l'idiotie. C'est-à-dire, en fait, faire un théâtre qui ne défend aucune idée, qui n'a aucun propos sérieux, etc., mais qui fait rire dans une puissance vertigineuse de vacillement du sens, ça, j'adore, ouais. On a travaillé sur cette idée que le comique pouvait avoir cette force-là esthétique de faire perdre les repères, d'avoir le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds. Hein, chez des grands artistes de clown, on a ça, ce moment où alors tout est possible, là, où le monde n'a plus de sens. Et en même temps, on y trouve une jouissance. Il y a toujours la question du plaisir, voire même de la jouissance, qui est fondamentale dans le comique. Mais comment on peut prendre plaisir à un monde qui vacille ou qui voltige tellement où on ne comprend plus rien, mais on reste ébahi, hein, voilà. Ce qui a été beaucoup dit, la notion du vertige a été beaucoup nommée à propos du théâtre de Feydeau, par exemple, hein, ou le vaudeville, avec le risque de mourir. Hein, puisque le vaudeville s'est construit historiquement au XIXe siècle à partir de la première du chapeau de paille d'Italie, La Biche, où il y a un spectateur était mort d'une crise cardiaque, tellement il avait ri. Et donc, le défi, derrière le comique, il y a toujours le risque d'en mourir. Hein, et c'est ça, le vertige. Le vertige, c'est quand à un moment, vous avez peut-être tous eu des fous rires. Un jour dans votre vie, vous avez eu peur d'en mourir. C'est-à-dire, on rit tellement qu'on n'arrive plus à respirer. Et ce moment, voilà, où la jouissance frôle la mort, enfin, c'est pour moi le vertige. Donc, on a travaillé là-dessus.
Alors, c'est ce qui est amusant aussi, enfin, je trouve, c'est les bilans que vous pouvez tirer de vos, de ces journées, puisque vous dites qu'en fait, les réflexions, elles sont a posteriori, et c'est comme ça que vous avancez dans votre recherche. Et par exemple, après cette deuxième journée sur le vertige, il y a un double vertige, parce que vous nous dites, mais finalement, ma posture de chercheuse, elle n'est plus au bon endroit, parce que il faut que... c'est pas tenable, il faut que je fasse l'idiote. Et donc, je ne dois pas me mettre dans cette posture-là. Donc, comment vous vous êtes rattrapée ?
Le texte que vous avez lu sur le blog, parce qu'on a un blog qui tient à jour un peu ce travail de recherche-création sur hypothèse.org. Oui, en fait, le texte que j'ai publié, c'était le texte d'ouverture de la deuxième journée sur le vertige, où j'apparaissais le matin pour ouvrir la journée et où je disais, c'est une journée où on va beaucoup travailler sur la question de l'idiotie et il ne faut surtout pas penser, en fait. Ça, c'est plus global pour le comique. Hein. J'ai découvert vraiment là, parce qu'en fait, moi-même, je m'y colle. C'est-à-dire, le principe, c'est qu'on s'y colle tous, hein, donc voilà, à ce risque de faire rire. Et que moi-même, je ne suis pas en train de regarder mes étudiants comme, vous voyez, un chercheur ou une chercheuse qui regarderait les insectes.
Non, vous êtes sur scène.
J'y vais avec. Ben oui, j'y vais avec. C'est très jubilatoire. J'adore. D'abord, j'ai découvert que je faisais rire les gens. Donc, enfin, encore plus que je croyais. Donc, c'est une grande joie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et en fait, je me suis bien rendu compte que quand on fait rire, en fait, ça jaillit. Bon. Ça a été dit hein, bien avant moi par Freud dans Le mot d'esprit. Et toute la psychanalyse a montré ça, que le comique, c'est un truc qui jaillit en nous. Ce n'est pas du tout de la pensée théorique, volontaire. Si on peut avoir lu tous les livres sur le comique et jamais être drôle. Hein, ça, c'est un truc qui jaillit en nous, c'est de l'inconscient. Et qu'il ne faut surtout pas... Faut laisser, en fait, les comiques, c'est des gens, les artistes comiques, c'est des gens qui ont pris l'habitude de laisser faire, d'autoriser cet exercice de l'inconscient. C'est une habitude qui est prise dès l'enfance. Hein. C'est des gens ce qu'on appelle la vis comica, la puissance comique. C'est des choses qui viennent de très loin et qui sont liées à une construction psychique. Hein. On s'est autorisé un moment, c'est une porte de sortie dans certaines douleurs, dans certains embarras de la vie, etc. Et on a cultivé ça. Et puis, mais c'est surtout pas pensé, surtout pas prémédité. Et dès qu'on se met à penser trop, on tue le comique. Et donc, je me retrouvais dans cette position paradoxale d'une chercheuse qu'il ne fallait plus qu'elle pense, qui devait un peu, à un moment, s'interdire de penser si elle voulait être un peu drôle sur le plateau. Et comme j'essayais d'être un peu drôle, moi aussi, il y a eu un moment où j'ai fait un petit stand-up, un peu surprise, dans la première journée, où je suis venue raconter comment... mes premiers travaux sur le comique étaient nés quand j'avais été hospitalisée en clinique psychiatrique pour ma première dépression. Première, parce qu'il y en a eu d'autres après. Et c'était un stand-up où je riais beaucoup de ça, et c'était totalement vrai, je riais, j'avais commencé à travailler sur le comique à ce moment-là, et je riais d'ailleurs dans ma chambre. Les infirmiers étaient toujours étonnés de me voir me marrer. Je suis sortie très vite, du coup. Bon, c'était bien, c'était très bien. Pardon, du coup, j'ai fait un petit excursus. Oui, et donc, en fait, quand j'ai préparé ce stand-up, je m'étais rendu compte que ce n'était pas volontaire, mais je n'arrivais pas du tout à réfléchir à ce que j'étais en train de faire. Mon cerveau, pourtant j'ai un cerveau analytique assez rodé hein, quand même depuis le temps que je fais de la recherche, je n'arrivais pas à regarder de l'extérieur ce que je faisais. C'est comme si mon cerveau avait une protection, quoi. Et puis les conneries, les idées qui me venaient, pardon. Mais oui, parce qu'on dit avoir la connerie, mais j'aime beaucoup cette expression. Les conneries qui me jaillissaient, j'en prenais soin et puis j'essayais de pas trop penser aux tenants et aux aboutissants de faire ça. Et je me suis rendu compte vraiment à l'expérience que c'est comme ça qu'on fait du comique. Donc, on peut pas être une chercheuse qui pense pendant qu'elle fait du comique. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, après coup, oui, j'ouvrais les yeux en me disant « Oh là là, j'ai fait ça !»
Alors, la troisième journée vient d'avoir lieu, le 26 février. Donc, ce troisième thème, ce troisième critère esthétique, c'est celui de l'ivresse.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir la primeur, parce que vous n'avez pas encore écrit sur le blog, justement, est-ce qu'on peut avoir la primeur de la réflexion sur cette journée-là ?
Ah oui, vous en avez d'autant plus la primeur que je n'ai pas encore vu les étudiants faire le bilan demain, donc je vais vous en parler avant eux. Là, on est parti sur, dans le fond, sur la question de la vitalité. Dans le fond, et ça, c'est fondamental dans le comique, le comique, il est porteur de la vitalité, d'une énergie de vie. D'ailleurs, psychiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je parlais de la pulsion de vie. Hein. Freud en parle comme ça, c'est la pulsion de vie qui se manifeste dans l'élan comique. Et une vitalité telle qu'elle crée ce que j'appelle l'ivresse vitale, l'ivresse d'être vivant. Et l'ivresse d'être en vie, avec le sentiment que la vie est une chose très vaste et très abondante, même quand on n'a rien. Justement, une des parties de la journée, c'était intitulé faire abondance à partir de la pénurie. Et il y a eu plein de choses dans cette matinée-là, cette séquence, mais il y a eu notamment un étudiant qui a performé un texte de Beckett dans son roman Molloy, où à un moment, le personnage de Molloy, ça dure 10 pages dans le roman de Beckett, on avait dû un peu couper, mais va s'occuper joyeusement à sucer des cailloux. Et pour s'occuper, il ne fait rien, hein, c'est un clochard qui est au bord d'une plage, qui est en train de devenir paralytique, enfin, voilà, situation absolument pas enviable, objectivement. Mais tout le roman de Molloy, c'est sur la joie de vivre, hein, l'énergie de vie qu'on peut avoir, même dans ce dénuement extrême. Et ce personnage prend des cailloux sur la plage et les suce un par un. Et donc, il va passer des jours à essayer de trouver des systèmes pour sucer bien les cailloux, pour que ce ne soit jamais le même. Et donc, il fait passer par 4 poches, etc. Donc, c'est des calculs mathématiques, c'est du jeu. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'en fait, la vitalité, l'ivresse de la vie, elle peut partir de rien. J'ai besoin de juste 16 cailloux que je vais sucer et m'occuper avec. C'est des jeux idiots, là encore. Hein. C'est encore avoir la connerie, cette expression-là. Mais à partir de rien, on fabrique le sentiment de la plénitude, donc, que j'appelle l'ivresse. Enfin, qu'on a appelé l'ivresse dans cette journée. Voilà. Et puis, là-dedans, il y avait aussi dans l'ivresse. Il y a aussi, on est revenu à toute la culture du bas corporel, pour parler comme Bakhtin, c'est-à-dire le bas corporel, le monde de la sexualité, de la scatologie, hein, qui sont des grands endroits du comique depuis Aristophane au moins. Et pourquoi c'est des endroits du comique, ce ventre bas? Ce ventre grossier, hein, parce que c'est des endroits de la vie. Hein, c'est là où manger, faire l'amour, faire des enfants, ben, c'est le fondamental de la vie. Et c'est des endroits, alors ça a été déjà bien analysé avant nous, hein, on a nous expérimenté ça, mais c'est des endroits à la fois de la dégradation, on dégrade, c'est des comiques où on rabaisse tout ce qui est noble vers ce trivial, cet ignoble, ce grossier. Et en même temps, dans ce rabaissement, on régénère, hein, on se remet au contact des choses fondamentales. Et le comique scatologique, alors je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout largement partagé par les jeunes gens de l'ENSAT. Visiblement, moi, ça me fait beaucoup plus rire qu'eux. C'est une découverte. Ils étaient un peu perplexes de me voir tellement rire. Bon, mais je crois que quand, dans le comique scatologique, dans le fond, on renoue avec une énergie d'enfant quand on avait 4 ans et demi, quoi. Moi, j'aime bien me retrouver dans cette énergie de mes 4 ans ou 5 ans, à rire de ça, c'est vrai, ça me donne une vraie joie. Mais là, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas universellement partagée, quoi. Hein, voilà. Là, sur la question sexuelle, en revanche, alors là, aucun problème. Hein. Là, j'ai observé que là, on y allait tous gaiement. Enfin, je veux dire, c'est un comique joyeux qui est beaucoup plus partageable et partagé que la question le caca ne fait pas rire tout le monde. Voilà. C'est une des conclusions...
aussi culturelle.
Oui, non, mais bien sûr.
C'est très français.
Et puis, il y a un étudiant comédien qui en est parvenu, d'ailleurs, qui me l'a dit, mais il m'a dit, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça dans cette école, quand même, école nationale supérieure. Comment peut-on travailler ce comique-là? Évidemment, on travaille sur tous les comiques. Hein, y a pas, voilà, on explore, hein, dans c'est un endroit de recherche. Mais... Alors, j'ai une dernière question qui concerne justement ces élèves. Le comique, bien sûr, il passe par un texte, des situations, mais il passe beaucoup par le comédien. Vous avez parlé tout à l'heure de la vis comica. Les étudiants de l'ENSAT qui suivent cette recherche-création, est-ce que ça les aide? Est-ce que après ces sessions, ils sont plus outillés pour arriver à faire à mobiliser ce qu'il faut pour faire rire?
On n'a pas encore assez de recul. Parce qu'on a commencé la première journée, elle a eu lieu en décembre 2022, donc il y a un an et trois mois. On a fait trois journées depuis. Donc j'ai envie de vous répondre que je le souhaite, que je souhaite qu'il soit mieux outillé, et que je l'espère. Ce serait prétentieux de dire que oui, parce que je ne le vois pas encore assez. Ce qui est sûr, c'est que je vois que c'est pour eux un espace possible de théâtre. Ça, c'est légitime. Et sur la question de la légitimation, c'est très important. Ils savent que c'est un espace pour eux. Il y en a plusieurs qui ont vraiment la vis comica. C'est comme ça. Il y a des acteurs qui montent sur le plateau, même sur des textes mauvais ou des choses, ils arrivent à nous faire rire, hein, à faire rire la salle. Bon. Mais du coup, ce qui est certain, c'est que pour eux, ils ont compris que c'était une force. Pour eux. Et que c'est pas un endroit comme ça, un peu à minoriser. C'est une force, et c'est une force artistique. Donc ça, j'en suis sûre. Après, sur les outils que ça leur donnera, il faudra voir, il faudra que je les interroge dans 4 ans, 5 ans, que je vois comment ce parcours aura. Après, je le vois déjà, par exemple, du côté de l'écriture. Sur la question de l'écriture dramatique, parce qu'ils écrivent aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement à l'écriture, il y a une confrontation à l'écriture, du coup, qui va passer au plateau, etc., où là, je vois que ça progresse, là où je vois que ça pose des questions, je le vois tout de suite. Sur le jeu, je pense qu'il faut mûrir pour devenir comédien, ça prend du temps, et après, je vois quand même qu'il y a des étudiants qui ont déjà, en trois journées, fait du chemin. Sur l'impertinence, par exemple, on a un comédien qui est extrêmement doué dans l'impertinence, mais vraiment. Et c'est très difficile, l'impertinence, parce que c'est un équilibre entre la violence et l'élégance. C'est un très grand équilibre. Et aujourd'hui, en plus, ça a très mauvaise presse. Hein, le comique violent, le comique agressif, la méchanceté, aujourd'hui, c'est devenu très tabou. Moi, j'interdis le tabou.
Il n'existe plus, on n'entend plus.
On n'a plus le droit. On n'a plus le droit.
On n'a plus le droit, vraiment. Ouais. Par rapport à il y a 10 ans ou une quinzaine
d'années. Oui. C'est très compliqué. Et donc, je trouve qu'un talent d'impertinence, ça se cultive. Et je trouve qu'en plusieurs séquences de travail, je trouve qu'il y a une grâce et un équilibre qui se trouve et qui est précieux, ouais, par exemple. Ouais. Et puis, il y a des gens qui seront, des acteurs et des actrices qui seront jamais drôles, quoi. C'est pas parce qu'ils auront fait de la recherche-création. C'est extrêmement injuste, le comique. C'est absolument inégalitaire. Si on n'a pas eu ça très fort dans le corps, dans l'âme, depuis assez longtemps, si on n'a pas une bonne dose de souffrance aussi, je pense vraiment, et d'avoir envie de la sublimer comme ça, ou d'avoir appris à la sublimer comme ça, on ne deviendra jamais drôle sur un plateau. C'est un peu violent et définitif, mais c'est mes convictions.
Ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Mireille Loscolena.
Merci à vous.
Merci beaucoup. À vous.